JP Nataf, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de passer quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays des Roues et RPH Sud. Pour figurer en première place sur la liste des invités du cru 2024 du Printival Bobby-Lapointe qui se déroule cette année du 16 au 20 avril. En première place, disais-je, car vous êtes le premier à vous produire sur la scène Carte Blanche que nous aurons l'occasion d'évoquer un peu plus tard. En première place aussi parce que vous êtes le parrain de cette 25e édition. Vous succédez dans ce rôle à Pierre Perret, Moussa Hakim, Juliette, Dick Angard, Yves Jamais et bien d'autres. Pas trop impressionné?
Si.
De figurer désormais dans cet aéropage?
Complètement impressionné. C'est ma première fois que je suis parrain d'un festival, donc c'est une grosse responsabilité. Déjà, c'est de faire en sorte que ça commence bien. Après, ça pourrait être rattrapable par tous les autres artistes qui vont se succéder toute la semaine, mais c'est toujours un peu impressionnant, puis surtout Dany m'a proposé ça, puis on s'est un peu loupé, puis je suis pas très très réactif comme bonhomme, mais c'est vrai qu'après quand elle me l'a proposé que j'ai fini par dire oui. Je me suis dit que c'était peut-être pas une soirée d'ouverture incroyable d'avoir un gars tout seul avec sa guitare, quoi, parce que c'est ce que je fais souvent comme exercice. Sachant que l'endroit, en plus, est une sorte de rêve de musicien. Enfin, ce petit théâtre qui est vraiment le décor absolument parfait pour commencer un festival. Donc voilà, donc j'ai amené des copains. Nous tous, on va dire, depuis... En gros, depuis que l'industrie du disque périclite gentiment et déjà tout le monde s'est tourné effectivement vers le live parce que c'est un moyen de faire notre métier. Et du coup, moi j'aime bien parce que depuis une vingtaine d'années, je trouve qu'il y a une forme de solidarité, de camaraderie, de confrérie qui s'est recréée, que j'ai moins connue avant, du temps des Innocents. Bon, après, on n'était pas sur les mêmes standards, on va dire, on faisait des tournées, on remplissait des salles, tout ça, mais je trouve qu'il y a quand même il y a beaucoup de passerelles entre des artistes qui n'ont pas forcément les mêmes univers esthétiques, mais en tout cas, moi, je sais que je multiplie les projets comme ça, des collaborations avec les uns les autres. Donc, voilà, j'ai trouvé que ce serait un bon moyen de commencer un festival, de faire un mini-festival dans le festival.
On y reviendra un peu plus tard, si vous le voulez bien.
Oui.
Mais revenons à votre carrière. Elle a débuté... avec une participation au groupe Les Innocents en 1982.
Exactement.
Comment vous définiriez ce qu'a réalisé ce groupe?
Déjà, je peux en parler au présent parce que ça existe encore. C'est plus mon projet principal parce que je fais plein de choses à côté, mais c'est comme ça reste quand même un de mes gros projets.
Le groupe existe encore. Vous produisez sur scène?
Oui, on a fait des disques même. On est revenu. On a fait une pause de 15 ans. Et puis on s'y est remis. Donc en 2015, on a remis le couvert, comme on dit. Et puis on a fait deux albums et deux tournées. Et puis là, il y a une suite aussi. Donc ça reste toujours quand même un de mes chevaux de bataille. Et je ne sais pas ce qu'on a accompli. En tout cas, on a accompli... Je peux pas me mettre à la place ni du public ni de l'extérieur. Moi, j'ai réalisé mon rêve d'enfant, on va dire, déjà de... Au lycée, de monter un groupe avec des copains, parce que c'était quand même un fantasme absolu de monter sur scène avec ses copains, de faire un groupe comme tous les groupes que j'avais moi-même adoré. Et puis il se trouve que ça s'est quand même globalement très très bien passé. Enfin voilà, c'est pas tombé du ciel, mais on a quand même eu la chance d'expérimenter 4-5 ans de gros succès. Quand on commence un projet avec ses copains à 18 ans, un aboutissement, c'est-à-dire qu'effectivement, quand à l'aune de la trentaine, j'ai pu clairement affirmer que c'était mon métier, que j'en vivais, que les gens écoutaient notre musique, qu'on faisait des grosses tournées. Donc c'est une première, on va dire, si c'était une pièce, le premier acte s'est très bien passé. Voilà, après le groupe s'est arrêté et effectivement moi j'ai bifurqué vers d'autres aventures en solo mais en solo très accompagné, on va dire. Je continue à à courir les routes de France avec juste ma guitare, parce que j'aime bien cette idée du troubadour. Moi, ça me plaît bien de pouvoir arriver dans un bar, une médiathèque, un lieu associatif, et puis de façon très légère, sans qu'il y ait forcément une installation, de pouvoir chanter partout. Mais j'adore l'esprit de troupe, j'adore jouer les chansons des autres, j'adore que les autres participent aux miennes. Enfin bon, voilà, ça c'est.
Qu'est-ce que c'est qui a provoqué ce besoin à un moment de mettre. Enfin,
Alors, c'est mon acolyte. Mon acolyte est quasi frangin, Jean-Christophe Urbain, qui en avait marre. Je crois que les 5 ans de succès, c'est très, très agréable. Ça flatte beaucoup l'ego, ça récompense le travail. Et puis, surtout, un espèce de choix esthétique qu'on avait fait qui n'était pas forcément gagnant parce qu'on. On était un peu entre le rock, la variété. Tout le monde nous a beaucoup reproché souvent de ne pas pouvoir être catalogable. Mais ça a fini par devenir une force, puisque finalement, notre musique apparemment ressemblait pas tellement à celle des autres. Et donc ça c'était un pari qui avait été gagné au la main, parce que d'arriver à placer des chansons en radio qui ne sont pas sur les formats du moment. Donc ça a été une très belle période. Après, c'est éreintant. Enfin, le succès populaire est quelque chose d'éreintant parce qu'effectivement, on est sur des rails, ça va très vite. On enchaîne les disques, les tournées. On n'est quand même pas responsable. Enfin, si, il y a quand même. On crée une petite famille, il y a les techniciens, tout ça. Enfin bon, c'est une économie aussi. Donc ça laisse pas beaucoup de place finalement pour des digressions, pour s'amuser. Et puis nous, on était un groupe, alors il fallait toutes les décisions étaient prises de façon conjointe. Alors voilà, il y a toujours des petites querelles d'ego, il y a des trucs. Moi, j'aimais bien ça. Mon camarade, au bout d'un moment, il avait l'impression d'avoir fait le tour. Enfin, ou je sais pas, ça le fatiguait de prendre toutes ces décisions de manière collégiale, de devoir faire des réunions, des machins. Et puis après, on joue. Alors, c'est très agréable de jouer devant 1000 personnes. Mais c'est vrai que moi aussi, je peux comprendre que. Si le succès avait perduré, comme ça peut arriver à certains grands artistes, je pense que je m'y serais plié, mais je pense que je serais passé à côté de quelque chose qui est l'immédiateté, l'enthousiasme de travailler sur des nouveaux, avec des gens différents, de se frotter à d'autres types de salles, parce qu'au bout d'un moment, rien ne ressemble plus à une grosse salle qu'une grosse salle. Donc, par exemple, j'aurais pas la chance de jouer dans ce genre d'endroit. Moi, j'aime bien jouer partout. Donc, c'est vrai que pour moi, ça a été une chance finalement, parce que j'ai beaucoup souffert du départ de mon camarade, parce que pour moi, c'était un peu mon projet de jeune homme. Mais finalement, passé une année un peu maussade, je me suis rendu compte que je connaissais plein de gens avec qui j'avais envie de jouer de la musique, que j'avais envie de jouer des musiques différentes, de participer à des projets différents. Donc cette liberté, c'est quand même quelque chose que je chéris par-dessus tout.
Il me semble avoir lu dans une interview que vous avez donnée que vous aviez acquis avec Les Innocents une notoriété qui vous permettait quand même de profiter d'une certaine liberté sur le plan de la création.
Ouais, ça, c'est sûr qu'on ne s'est jamais rien fait imposer. On est arrivé avec un univers très marqué, donc en même temps, je pense que quand vous êtes sur quelque chose de plus balisé, effectivement, peut-être les gens autour de vous, les directeurs artistiques, les maisons de disques, tout ça, peuvent vous dire faut être plus comme ça dans l'air du temps, ou je ne sais pas quoi. Nous, il se trouve qu'on a eu du succès avec quelque chose qui était. Qui n'était pas exactement. Qui rentrait pas dans une case. Donc, ça, on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. À faire valoir que notre différence artistique méritait d'être et respectée et encouragée. Donc on n'a jamais eu, jamais, on n'a jamais été confronté à des pressions d'ordre artistique. Par contre, dans l'exercice de ce métier, quand on a du succès, on vous encourage quand même à faire beaucoup de compromis. Enfin, il y a des tas de choses qu'on a fait qui ne nous ont pas, comment dire,
pleinement
pour
satisfait.
Oui, ou pour lesquels on n'était pas fait. Par exemple, les enfoirés, moi je ne remets pas en cause le fait que ça existe. C'est une noble idée. Mais par contre, la partie artistique des enfoirés, ce n'était pas pour nous. On l'a fait 2 fois. Et voilà. Après, là-dedans, on a essayé de conserver notre singularité, qui n'était pas forcément de faire comme les autres. Mais ça, c'est beaucoup de lutte.
Si je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, bon, quand même, le fonctionnement des Innocents, c'était quand même très consensuel.
Déjà, on est deux auteurs-compositeurs et deux chanteurs. Donc déjà, voilà.
Et vous disiez également dans la suite de l'interview que le fait maintenant de travailler en solo, oui. plus en solo, vous avez permis d'acquérir encore plus de liberté que celle que la notoriété oui. vous avait permis d'avoir du temps des Innocents.
Oui, alors après, je dois avouer que je suis quand même privilégié parce que la notoriété que j'ai acquise du temps des Innocents fait partie de mes bagages. J'aime jouer de la guitare et chanter pour des gens, qu'ils soient 30 ou qu'ils soient 3000. Je ne vois pas de différence.
Et j'ai trouvé une phrase qui peut-être définit votre travail actuellement, c'est faire de la musique pour être à la hauteur d'une exigence, sans chercher à être une vedette à tout prix.
Oui, ni être le meilleur. Je pense qu'il y a des tas de façons de faire de la musique. Je veux dire, pendant des siècles et des siècles, la musique, d'abord, ce n'était pas un ascenseur social. Ça ne rapportait pas des millions et des millions à qui que ce soit. Il y avait quelques musiciens qui s'en sortaient bien parce qu'ils jouaient à la cour et puis ou c'était des génies. Mais dans l'ensemble, c'est une pratique dans le monde sur des millénaires qui est quelque chose qui est de proximité. Hein. C'est dans le griot dans un village africain, la musique éthiopienne, les salons de musique au Pakistan. Enfin, moi j'ai eu la chance d'avoir vite, de répondre vite à cette question de qu'est-ce que c'est que d'avoir du succès et cette reconnaissance. Mais en fait, la reconnaissance de 30 personnes, elle est aussi importante que celle de 3000. Le nombre, il ne change pas grand-chose. Donc j'estime que j'ai du succès puisque je travaille.
Pour terminer cet entretien, je sais que généralement, ceux qui sont chargés de concevoir la carte blanche du programme du Printival tiennent quand même à garder un certain mystère et quelques surprises par rapport à ce qu'ils vont présenter sur scène. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette carte blanche? D'abord, vous n'êtes pas seul.
Ce casting-là découle alors c'est un casting qu'on a déjà fait pour les 4/5e une fois. Et ça c'est bien. Alors je vais commencer par le garçon, c'est pas très poli, mais il y a Bastien Lallemand avec qui je fais énormément de projets. On participe aussi à cet acoustique, qui est un concept qu'il a créé il y a 11 ans maintenant. Donc je suis souvent un participant. J'ai réalisé son dernier album. Et j'ai co-réalisé les deux précédents. Donc, on a un autre projet dessiné avec deux dessinateurs qui sont Berberian et Alfred, qui s'appellent Tous pour un. Donc, Bastien et moi, on commence à avoir une histoire. On connaît bien les chansons l'un de l'autre. Donc, c'est voilà. Et puis, Amandine Messia, je la croise depuis qu'elle a commencé, en gros, depuis son premier album. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, je trouve d'une élégance, d'un talent incroyable, qui en plus dans une équipe... Alors, y a quelque chose aussi qui est marrant, parce que c'est, je pense que dans le fait de travailler sur des projets collectifs, y a un art du casting, c'est comme au foot, qui ne consiste pas à aligner les meilleurs, mais à aligner les gens qui sont complémentaires et qui apporte justement des choses différentes. Et puis, on vit en équipe pendant 2-3 jours, là, par exemple. Donc, c'est quand même très, très important aussi la façon dont on vit en société. On prend le train ensemble, on mange ensemble. Donc, voilà. Et Amandine a ce talent incroyable de pouvoir être en même temps sur scène et en même temps un regard. Elle a un regard extérieur. C'est quelqu'un qui va plusieurs fois dans la journée aller se mettre dans les fauteuils pour voir... et qui amène beaucoup de sensibilité, beaucoup de recul. Clarica, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, mais avec qui je n'ai pas tellement travaillé. On a eu pas mal d'occasions de se croiser. Je l'ai vue plusieurs fois sur scène. J'ai fait, je crois, un duo avec elle il y a très longtemps. Mais j'aime beaucoup son travail. Et puis je trouve que surtout, c'est quelqu'un qui, avec les années, reste à un niveau quand même de générosité, d'écriture. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui en tout cas, se fout pas de la gueule du monde. Je trouve que c'est exigeant. C'est une forme de chanson française que je trouve très, très brillante. Et j'aime beaucoup sa voix. Et puis, c'est pareil, c'est une très bonne camarade de route.
Elle a un CD qui est sur le point de sortir.
Exactement.
Qui est déjà sorti.
Voilà.
Qu'on n'a pas écouté. J'ai eu l'occasion d'écouter.
Ah ouais, nous, on ne l'a pas encore écouté.
Ouais. Ça vaut le coup de l'écouter.
Ouais, mais tous ces disques.
Ça vaut le coup de l'écouter.
Ouais, mais tous ces disques. Vraiment, voilà. Alors, il se trouve. Alors, dans l'art du casting, j'aurais pu dire tiens, il y a Messia, il y a Clarica. Mais en plus, Messia et Clarica travaillent ensemble sur un autre projet, un hommage à Jean-Loup Dabadie depuis 2 ans. Donc c'est vrai que c'est super aussi parce qu'il y a des synergies, bah, elles sont habituées en ce moment à voyager ensemble. Voilà, je trouve que c'est bien aussi de surfer sur des énergies d'un moment. Et puis là, on a donc quand j'ai proposé ça à Dani, je crois qu'elle était assez enthousiaste. parce qu'on avait pensé à d'autres gens, mais c'est vrai qu'après, voilà, le casting, je vous dis, c'est pas d'empiler. Et puis Maëva Lebert, qui est notre camarade violoncelliste, qui est un peu de toutes nos aventures depuis 20 ans. Je trouve que je pense qu'il y a un beau programme de chansons, enfin des choses différentes, des choses. Ouais, voilà, je sais pas, c'est un peu des plans sur la comète, on verra demain, mais il y a de tout, vous allez
Il y a
voir.
des échanges,
Il y a
des
de tout. On
reprises.
s'accompagne tous les uns les autres déjà,
Voilà,
des
déjà
reprises, des échanges,
ouais.
voilà. Mais chacun chante quand même au moins 5 chansons de son répertoire, donc.
Vous avez un site sur lequel
Pas du tout.
Par contre, on peut rappeler celui du principal, dans le site sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des informations concernant le programme du Cru 2024, printivalbobby-lapointe, tout en minuscules et attaché, .com. Et sur Facebook, il y a une page Printival. Merci beaucoup.
De
Je vous
rien.
laisse aller travailler.
Merci.
et puis je vous dis à demain soir, mardi,
Oui,
20h30,
sans
au
problème.
théâtre de Pézenas.